Merci de nous rester fidèles. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Une trentaine d'enseignants de l'ancienne province de Rumonge ont quitté l'enseignement. La Cosesona explique en général les départs des enseignants par le coût de la vie et des salaires peu motivants. La journaliste Sandra Mohoza, maintenue en détention préventive, les avocats de la défense stupéfaits projettent de faire appel. La Parsem explique le faible taux de décaissement des fonds sur financement des partenaires de développement du Burundi par la corruption et le népotisme. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Alphonse Kougiman.
Isanganiro, la radio de l'avenir.
Éducation pour débuter cette édition. 34 enseignants de 4 des 5 communes que comptait l'ancienne province de Rumonge ont quitté l'enseignement, certains étant promus, d'autres ayant carrément déserté. Selon les statistiques disponibles à l'ancienne direction provinciale de l'enseignement de Rumonge, les directeurs d'école concernés par ces départs voudraient des remplaçants, certains affirmant s'être rabattus aux enseignants bénévoles pour la continuité des enseignement. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago.
Dans ces statistiques disponibles à l'ancienne direction provinciale de l'éducation de Rumonge, à côté des retraités et des décès, apparaissent 15 enseignants récemment nommés pour occuper certains postes zonaux ou communaux selon la nouvelle organisation administrative au Burundi. 19 autres enseignants ont carrément déserté pour des postes plus payants au Burundi et d'autres sont allés à l'étranger à la recherche de l'amélioration des conditions de vie selon certains enseignants prestant encore à Rumonge. Dans les écoles de départ, les enseignements ont été perturbés et on a dû recourir aux enseignants bénévoles ou surcharger les enseignants disponibles jusqu'à plus de 24 heures par semaine et par enseignant. Les directeurs d'école concernés demandent pour cela le remplacement dans l'urgence de ces départs, ce qui est en train d'être fait au niveau de ce secteur à Rumonge, où on exige à ces directeurs de suivre à la lettre toutes les démarches en cas de désertion pour avoir des facilités de remplacement. D'autres enseignants, dont le nombre n'a pas été précisé, attendraient seulement leur mise en disponibilité pour partir. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro.
Le coût de la vie et les salaires peu motivants sont parmi les principales raisons qui poussent de nombreux enseignants à abandonner leur métier pour chercher du travail dans d'autres pays ou dans d'autres secteurs. Point de vue à du vice-président de la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale, Cosesona, après avoir constaté que dans certaines provinces, un grand nombre d'enseignants ont quitté leur poste. Emmanuel Machandari explique que cet exode des enseignants a des conséquences négatives sur le niveau d'apprentissage des élèves. Il demande au gouvernement d'augmenter les salaires des enseignants et de trouver solution au problème de dépréciation de la monnaie burundaise dans le but de les maintenir. Suivez.
Il s'observe ces derniers temps un départ massif des enseignants, et pas seulement des enseignants, de jeunes Burundais qui sont à la quête de recherche de meilleures conditions de vie. Il y a de cela une année ou deux ans, le mouvement se dirigeait vers l'Europe. Et ces derniers temps, c'est un départ vers les pays arabes, vers les Émirats arabes unis, et surtout à Dubaï, où des gens qui arrivent là-bas perçoivent une rémunération, surtout à travers les devises, qui peut aider ces enseignants pour améliorer les conditions de vie. La motivation de ce départ, c'est le coût de la vie actuellement au Burundi. C'est déplorable. La monnaie a dégringolé. Or, si la valeur de la monnaie continue à se dévaluer, vous comprendrez que le salaire du fonctionnaire ne peut plus satisfaire des besoins vitaux de la famille. Et c'est pourquoi les gens tentent d'aller gagner leur vie à l'extérieur. De notre côté, nous avons un départ vers l'administration. Aujourd'hui, avec la nouvelle restructuration administrative, on constate qu'il y a eu beaucoup de services qui sont créés au niveau des communes, au niveau des zones, et les enseignants sont sollicités pour aller occuper ces services. Et tous ces départs vident le système éducatif d'une main-d'œuvre qualifiée, des intellectuels, des gens qui étaient en train de préparer l'avenir de ce pays. Au niveau de l'éducation, il s'observait une carence d'enseignants. Il est vrai que le gouvernement avait projeté un recrutement de 2000 enseignants pour cette année. Malheureusement, il y avait déjà un vide. On a un autre départ. La planification de ces 2000 tenait compte des besoins qui étaient exprimés. Maintenant, il y a un autre besoin qui s'ajoute avec ce départ. Ce départ concerne des gens qui avaient déjà acquis de l'expérience. Qui, quand ils partent, même si on le remplace, le nouveau venu va prendre du temps pour se familiariser avec le contenu matière et dans l'entretemps, les enfants en pâtissent. Or, dans certaines contrées du pays, on a appris qu'il y a des écoles qui ont vu un départ de 4 et 5 enseignants dans un seul établissement. Même si à Bujumbura, j'ai appris qu'il y a une école qui a vu un départ de 7 enseignants. Et c'était une école qui avait une certaine réputation. La proposition, je l'adresse au gouvernement. Pour limiter ce mouvement de départ, il faut créer de meilleures conditions de vie des travailleurs, des fonctionnaires.
Emmanuel Machandari, vice-président de la COSESONA, dont le propos ont été recueillis par Stella Ndaishimiye. Et le syndicat des travailleurs de l'école normale supérieure ENES demande aux instances gouvernementales de les informer sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la politique salariale au sein de cette institution. Lors de leur assemblée générale ce mercredi, Albert Nyamwana, président du cercle du personnel enseignant de l'ENES, a rappelé que les travailleurs attendent l'application de cette politique depuis 2015 sans résultats concrets jusqu'à présent. Il a également annoncé l'intention du syndicat d'adresser une lettre au président de la République du Burundi afin d'attirer son attention sur cette situation qui ne fait que durer. Suivez.
Nous sommes déjà au deuxième trimestre de l'année budgétaire 2025-2026, mais il n'y a rien qui filtre par rapport à la mise en œuvre de la politique salariale au sein de notre institution. Donc les échanges ont porté sur ce que nous pouvons faire, et la recommandation a été que cette question soit adressée au plus haut niveau de la République, en l'occurrence au chef de l'État. Les salaires des personnels de l'école normale supérieure, mais des universités publiques en général, parce que nous sommes dans un système harmonisé, ces salaires sont dans une précarité alarmante. Si je vous donne une simple indication, un des 7 qui enseigne à l'école primaire, disons à l'école fondamentale, le salaire d'un enseignant qui vient de commencer à l'université n'excède pas de celui-là de plus de 50 000 francs burundais. Et ça, c'est pas connu du grand public, malheureusement. Les institutions d'enseignement supérieur recrutent les meilleurs lauréats des universités pour enseigner. La situation actuelle est telle que certains enseignants qui viennent nous rejoindre repartent presque aussitôt. Comme conséquence, ceux qui restent supportent le poids de ces départs. Parce que recruter de nouveaux enseignants reste toujours un défi. Et donc, que ce soit pour encadrer les étudiants dans les auditoires ou même dans la direction des travaux de fin d'études ou des stages, c'est un poids énorme pour les enseignants qui restent.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
À 18h09 dans le studio de la radio Isanganiro, parlons justice à présent. Les avocats de la défense de la journaliste Sandra Mohoza sont étonnés par la décision du tribunal de grande instance de Ngozi sur le maintien en détention de cette journaliste. Propos de maître Rémi Sabimana, un de ses avocats qui déplore les efforts fournis pour montrer au tribunal des irrégularités constatées dans sa détention, d'où la demande de sa libération. Il indique par conséquent qu'ils envisagent faire appel à la cour d'appel de Ngozi uniquement pour la libération de Sandra Mohoza avant le fond de l'affaire. Les détails d'Apollinaire Muzagara.
Comme l'indique Maître Rémi Sabimana, les avocats de la défense s'attendaient à la libération de la journaliste Sandra Mohoz, c'est après avoir démontré les irrégularités contenues dans son dossier, mais en vain, d'où il parle d'une grande déception.
Nous avons mal appris cette décision parce que c'est une décision de notre part injuste, parce que nous avons l'espoir que le tribunal devait prendre en considération nos allégations liées à la violation honteuse de la loi. Notre cliente est incarcérée jusqu'à maintenant et je dis illégalement, raison pour laquelle nous avons l'espoir que le tribunal devait prendre une décision en faveur de notre cliente, donc elle devrait être libérée.
D'après cet avocat, l'urgence n'est pas d'entrer dans le fond du dossier, mais plutôt de faire appel à la cour d'appel d'Ongozi sur la libération provisoire de Sandra Mohoz.
Nous préconisons intenter appel auprès de la cour d'appel d'Ongozi pour que cette décision qui refuse la libération de notre cliente soit de nouveau revue. Du moins pour que la procédure continue après avoir une libération. Comme ça serait une justice pour nous. Si ce n'est pas accordé, nous allons retourner au niveau du tribunal de grande instance pour que le tribunal soit statué au fond.
Sandra Mohoz est incarcérée depuis plus d'une année. La cour d'appel de Bujumbura Mairi s'était déclarée dernièrement incompétente à juger cette affaire. Sandra Mohoz est accusée d'atteinte à l'intégrité territoriale et d'aversion ethnique. Donc aussi, apprenez Muzagara, Radio Isanganiro.
Parlons gouvernance à présent. La corruption ainsi que le recrutement basé sur l'appartenance politique ou le népotisme sont les principales raisons expliquant le faible taux de décaissement des fonds des partenaires du Burundi au développement. Une lecture de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM. Faustin Dekoumana, directeur national de cette organisation, réagit après que le ministre des Finances ait révélé que seuls 20% des fonds alloués au projet de développement par des partenaires, notamment la Banque mondiale, la BAD et l'OFIDA, sont jusqu'aujourd'hui décaissés. Le directeur national de la PARSEM estime qu'il est nécessaire de recruter des coordonnateurs des projets par des tests ou confier ces projets à des étrangers compétents. Suivez ses explications.
Cette situation de faible taux d'absorption des financements de l'aide publique de développement ne date pas d'hier. Depuis 2012, vous vous souvenez du financement du CCRP2, quand on avait organisé la conférence de mobilisation des fonds à Genève, on y avait participé, mais le lendemain, pas plus de 20% n'ont été mobilisés à travers la série nationale de coordination des aides. Si on analyse le financement FED, au moment où d'autres pays accédaient au FED, 8e FED ou 6e FED, le Burundi était encore au 2e FED. Le financement de fonds mondiaux, décaissement parcimonieux. Le décaissement était parcimonieux. À la BAD, c'est la même chose. Le taux d'absorption de la Banque mondiale, c'est une situation endémique, chronique, qui ne date pas d'hier. Et ce financement était destiné pour la construction des routes, pour le développement des barrages hydroélectriques, les addictions de l'agriculture et la santé. Et ça pourrait me contribuer à renflouer les caisses de l'État en devises. Et la conséquence est la situation dramatique au niveau des infrastructures actuelles, l'état des routes, et carburant, l'électricité, la santé, l'eau, l'internet. Et la cause, cette corruption devenue endémique, les nominations devenues clientélistes, parce que des fois on nomme un cadre, non pas parce qu'il est compétent, parce qu'il a accepté en échange de donner quelque chose au moment où il gère tel ou tel autre projet, à son mentor, ou à son, je dirais, à celui qui l'a parrainé au sein du parti, en général, quelque part, au moment de l'évaluation de la Banque mondiale à travers le Country Policy Institutional Assessment, le Burundi avait une note en deçà de la moyenne par rapport aux autres pays. Je crois qu'il est grand temps de rectifier le tir. Je crois qu'il faut passer aux solutions suivantes. D'abord, accepter que le Burundi a encore besoin de l'aide publique au développement pour son démarrage. Il faut une gestion axée sur les résultats. Le cas échéant, organiser des concours de recrutement des experts pour gérer ce projet de développement. Des experts nationaux, étrangers même. On ne peut pas continuer à sacrifier la vie des millions de Burundais pour le simple fait de vouloir donner un emploi sous une nomination clientéliste à un Burundais incompétent.
Faustin Dekoumana, directeur national de la PARSEM. Le 15 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée International dédié à la femme rurale. Certaines femmes agricultrices du quartier Mugirigi, situé en zone Mutimbuzi, disent être conscientes de leur rôle essentiel dans la protection de l'environnement. Elles affirment qu'elles ont adopté des pratiques agricoles durables, telles que le traçage des courbes de niveau pour limiter l'érosion des sols lors de fortes pluies. Odette Ndaizeye, agronome de la zone, souligne que ces pratiques permettent de prévenir la famine dans les foyers qui les appliquent. De son côté, Marie-Bernadette Akizimana, point focal en genre et environnement à Lisabou, trouve que ces changements sont le fruit d'un renforcement de capacités. En reportage signé Onela Mucho.
Selon les recherches, plus de 80% des agriculteurs au Burundi sont des femmes. Cela signifie qu'elles doivent être les premières à s'engager dans la lutte contre les changements climatiques, notamment à travers une agriculture respectueuse de l'environnement. Dans le quartier Mugirigiri, situé dans la zone Mutimbuzi, ancienne Malamvia, certaines femmes ont déjà pris conscience de cette responsabilité. Efemi Namavokilo, agricultrice des cultures vivrières, indique qu'elles ont désormais une technique qui consiste à rassembler et stocker des herbes pendant une certaine période afin d'en faire des composts organiques, ce qui améliore la fertilité du sol.
Pour bien récolter, il faut semer différentes variétés de semences. Cela permet, en cas de perte, de pouvoir en récupérer d'autres pour nourrir nos familles. Nous commençons par cultiver le manioc. Si la pluie continue, comme c'est souvent le cas en octobre, nous poursuivons avec la plantation du manioc. Ensuite, enchaînons avec le maïs, suivi des haricots et d'autres cultures selon les saisons. On tient toujours compte des saisons, chaque culture a sa période. Prenons l'exemple du manioc. Il a sa propre saison culturelle. Et entre ces rangées, on peut intercaler d'autres petites semences à croissance rapide.
Claudine Akizimana, une autre cultivatrice de la zone Mutimbuzi qui cultive du riz, se réjouit qu'en appliquant les enseignements reçus sur l'adaptation au changement climatique qui affecte souvent les récoltes et provoque la faim, elle n'a jamais connu de perte de production, contrairement aux années précédentes où elle ne traçait pas de courbe de niveau.
En cultivant, on a appris à installer des haies anti-érosives dans les champs. Cela permet à l'eau stagnante de s'évacuer et de créer un chemin pour l'écoulement. Avant de connaître cette méthode, toutes les plantes se noyaient.
Paul Nahimana, un agriculteur homme, affirme que même si les hommes ne doivent pas rester en arrière dans la pratique d'une agriculture durable, ce sont les femmes qui doivent prendre les devants, mais aussi être soutenues pour le bien du foyer et du pays. Selon Odette Ndaizeye, agronome dans cette zone, depuis qu'ils ont commencé à dispenser des formations aux agriculteurs, majoritairement des femmes, des changements positifs ont été observés. Par exemple, au cours des deux dernières années, la zone a pu livrer 35 tonnes de maïs au centre Nagessa, un volume jamais atteint auparavant.
On peut les sensibiliser, de cultiver au moins 3 cultures dans le même champ. Si par exemple on doit cultiver le manioc, s'il y avait du soleil ou bien des hautes pluies, chaque culture doit s'adapter dans son milieu. On ne peut pas mélanger n'importe quoi. On doit éviter la concurrence des cultures.
Benatet Akizimana, experte en développement inclusif et en protection de l'environnement, insiste sur le fait que pour les femmes aient un rôle réel, donc qu'il faut que les jeunes femmes rurales soient les premières à recevoir des formations sur la protection de l'environnement dans toutes leurs activités. Il souligne que lors des catastrophes climatiques, comme des inondations qui emportent les champs, ce sont elles qui sont les plus touchées car elles sont généralement responsables de l'approvisionnement alimentaire du foyer.
On peut affirmer qu'aujourd'hui, il y a un changement parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui œuvrent pour que la femme ait quelques connaissances. Mais ce qui reste, je dirais que c'est que tout le monde s'y mette, surtout à propos des gens qui sont chargés d'organiser des formations en milieu rural, surtout sur les thèmes de l'environnement ou bien en relation avec l'agriculture, qu'il y ait des lois qui incitent les gens à voir le nombre de femmes qu'on a formées, le nombre de jeunes qui sont en train de bénéficier de ces formations.
Ils le disent à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée chaque 15 octobre. Cette année, le thème est la femme rurale et la protection de l'environnement.
Parle, rassure-moi.
La recherche de postes politiques pousse parfois certains dirigeants à faire des promesses irréalisables à la population. C'est ce que pensent certains responsables des partis politiques. Selon eux, des hommes politiques doivent être honnêtes, penser au futur du pays et corriger leurs erreurs quand il le faut. Cela aiderait les citoyens à garder confiance en leurs dirigeants. Sinon, les gens risquent de perdre espoir et de faire de mauvais choix par déception, comme l'explique l'expert en leadership Emmanuel Ndikouman à la chronique « Parler rassure-moi » de ce mercredi avec Francine Dehokubgayo.
Gabriel Banzawitonde est le président du parti APDR. Il explique que la recherche de postes politiques et la perte de certaines bonnes valeurs poussent certains dirigeants à dire des choses qu'ils ne font pas.
Il y a eu une dévalorisation des normes sociales ainsi que des problèmes liés aux différentes crises qu'a connu le pays. Au Burundi, les gens placent leur espoir dans certaines croyances ou réalités. Certains chefs de partis politiques font des promesses vagues sans donner de détails concrets, sans expliquer comment cela sera fait.
Ces discours qui ne correspondent pas aux actions peuvent diviser la population. Les gens ne savent plus qui croire ni quelle direction suivre, comme l'explique aussi Jean de Dieu Mutabazi, président du parti Radebo.
On a l'impression que les dirigeants ont perdu leur temps. Les citoyens ressemblent à des brebis sans berger. Ils ne savent plus quelle direction à prendre. Les gens ne sont plus unis. Ils semblent désorientés et cela crée un grand désordre.
Mais cela n'est pas la seule conséquence. Emmanuel Ndikoumana, expert en leadership, ajoute que cela fait perdre confiance aux citoyens. Ils se sentent abandonnés et essaient alors de se débrouiller seuls.
Quand il y a la perte d'espoir, les gens ont peur d'avancer jusqu'à l'autodéfense. La perte d'espoir provoque une peur et des lamentations envers leurs élus. De fois, les décideurs prennent des décisions qui vont à l'encontre de leurs élus, tout en les reprochant de lâcheté ou trahison. Si les promesses ne sont pas mises en application, souvent il y a des contestations. Le décideur va prendre des mesures pour protéger ses intérêts, pour le bien de sa famille.
Pour changer cela, ces responsables des partis proposent que les dirigeants politiques disent la vérité et prennent le temps de réfléchir à leurs actions.
Les responsables doivent s'évaluer ainsi. Vous saurez que vous êtes redevable, puis informer la population sur les causes des échecs. La population comprendra. Mais je demande à cette population d'être vigilante.
Quand un leader s'est fait élire et s'il est élu, qu'il y soit un homme de parole qui reste crédible, ceci est important pour les politiciens militants pour les postes. C'est vrai, il avance, lui et sa famille, mais qu'il y soit un politicien digne de lui, un visionnaire.
L'expert en leadership ajoute aussi que les dirigeants doivent être capables d'écouter les conseils, car cela permet à tous de contribuer à la construction du pays.
Ainsi se referme cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Kougimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir.